Bonsoir, 5 chantiers du président Joseph Kabila, présentation du calendrier de la première phase d'exécution. La troisième session extraordinaire du Conseil national du travail triple le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en RDC. Affaire Bundudia Congo, début du procès des adeptes de BDK en Bazangungu dans le Bas-Congo. L'Assemblée provinciale du Bas-Congo publie son rapport sur l'existence ou non des fosses communes. Ce sont là les sujets que nous abordons dans ce rendez-vous hebdomadaire de la presse avec nos invités. Il s'agit de Don Piero Tukani, correspondant de Raga FM dans le Bas-Congo, Francis Kalonga, journaliste à la radio communautaire Bitudietu de l'archidiocèse de Kananga au Kasaï occidental, et Luc Roger Mbala, directeur de rédaction du journal L'Observateur qui paraît à Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous. Cinq chantiers du chef de l'État. Le coup d'envoi des travaux de construction de l'autoroute Lubumbashi-Kasumbalesa est donné par le chef de l'État. La cérémonie a eu lieu ce vendredi sur le tronçon Lubumbashi-Kasumbalesa. Une équipe gouvernementale accompagne le président de la République. Cette équipe est composée notamment des ministres des Travaux publics, le ministre près le Premier ministre et le ministre des Mines et autres. Du côté des hommes d'affaires, on salue le lancement des travaux. Pour eux, cet ouvrage constitue une grande ouverture vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Il leur permettra d'accroître leurs affaires. Dédé Moupassa, opérateur économique dans la province du Katanga, joint au téléphone par René Capita.
Nous sommes contents parce que construire cette autoroute, c'est créer du travail, c'est donner de l'emploi et c'est créer du marché.
Qu'est-ce que cette autoroute, une fois achevée, va changer dans le climat d'affaires au niveau du Katanga?
Oui, mais au niveau du Katanga, vous savez, Kasumbalé, ça c'est une grande porte. C'est un peu comme un port sec, comme on dit, comme on a dit, c'est le port de Boma. C'est ça l'entrée de Kasumbalé, ça. Dire qu'est-ce que ça peut apporter au Katanga, c'est dire qu'est-ce que le port de Boma peut apporter au Bas-Congo ou en République démocratique du Congo, c'est pareil. Donc cette autoroute va faciliter la tâche parce que c'est par ce point-là que nous avons la liaison directe avec l'Afrique du Sud, que nous avons la liaison directe avec le port de Dar es Salaam, que nous avons la liaison directe avec le port de Namibie. Donc vous voyez, c'est une ouverture totale qui va donner des facilités pour transporter des poids voulus. Car vous savez, dans le transport, c'est les poids qui comptent pour maximiser.
Rappelons que Pierre Lumbi, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a présenté mardi dernier au Grand Hôtel de Kinshasa le calendrier de la première phase des travaux d'infrastructure de ces cinq chantiers. Luc Roger Mbala, vous êtes directeur de rédaction du journal L'Observateur qui paraît à Kinshasa. Le coup d'envoi est donné. Quelle est votre analyse?
Bonjour les auditeurs de Radio Capi. Il faut dire que les Congolais attendaient le coup d'envoi de ces cinq chantiers annoncés tambour battant par le président de la République et l'ensemble du gouvernement. Les Congolais l'attendaient depuis plusieurs mois déjà, et le fait qu'on ait démarré ces travaux ne peut que nous réjouir, mais il faudra vraiment qu'on aille à l'essentiel maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a eu l'inauguration de l'axe Kasumbalesa et ce sera une nouvelle bretelle qui va pratiquement connecter le Congo oriental avec l'Afrique australe. C'est pratiquement le désenclavement du corridor Est. Ça, c'est quelque chose de très bien. Mais il faut y aller. Il faut aller avec beaucoup de détermination. Parce que moi, ma crainte a toujours été les effets d'annonce. Chaque fois, quand il y a des projets, on lance des projets avec beaucoup de pompe et à la fin, quelques temps après, quelques années après, quand on fait les décomptes finales, on se rend compte que très peu de choses ont été faites. J'espère que le fait que le chef de l'État, le président de la République, ait été sur place pour donner le coup d'envoi augure bien un avenir meilleur pour l'ensemble de la République et même de la région de l'Afrique centrale et australe.
Don Piero Tukani, je rappelle que vous êtes correspondant de Raga FM dans le Bas-Congo. Vous partagez le même point de vue que Luc Roger Mbala, qui s'est réjoui, mais qui dit qu'il faudrait aller de l'avant, aller jusqu'au bout.
Tout à fait, je suis d'accord avec mon ami. Le problème, c'est que le Congo, on nous a habitués avec des projets, des grands projets qui ne finissent jamais. Vous savez que Inga, par exemple, Inga n'a jamais été finalisé jusqu'au bout. Il n'y a que des travaux à faire sur Inga. Je suis heureux qu'il y a un financement, nos amis chinois, je crois, qui sont derrière cette affaire-là. Mais il faudrait vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Et on a commencé par la route. Vous savez, quand la route va, comme on dit, tout va. Le Congo devait être un pays J'ai été au Cameroun, j'ai été au Sénégal, il y a des grands boulevards, il y a le pays est presque ceinturé par des grandes routes. On peut partir de l'est à l'ouest, par contre le Congo, et plus de tous les pays dans notre pays, et pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Si le Bretel, Kassoumado, Salombashi, c'est bon, c'est bien bon, mais que ce soit vraiment un débit pour que tous les pays puissent avoir de grandes routes et permettre à tous les Congolais de sillonner tout le Congo.
Francis Kalonga, est-ce que vous avez la même réaction que les deux amis? Nous avons du mal à avoir Francis Kalonga, sûrement que la technique est en train de tout faire pour le retrouver. Je reviens vers vous, Luc Rogembala. Quelle garantie finalement donner quant à la qualité même du travail qui sera réalisé?
Bon, la garantie, je crois même, la garantie, on peut la trouver auprès des initiateurs du projet. C'est-à-dire d'une part le gouvernement qui annonce le lancement de ces travaux gigantesques, d'une part, et puis de l'autre côté les partenaires qui vont faire ces travaux, en l'occurrence les partenaires chinois, parce que il y a cette comme a dit Don Piero, il y a cette connexion de la République, c'est le désenclavement de la République grâce à des infrastructures routières. Mais la garantie n'exclut pas le respect des engagements. Je crois que les deux parties doivent montrer qu'ils ont suffisamment de volonté pour pouvoir réaliser ces travaux. Et la garantie se traduit par la transparence. Dans la réalisation des travaux, il y a la transparence, il y a...
La transparence, par exemple, à quel niveau?
La transparence au niveau, par exemple, de la gestion des fonds. Hein, par exemple, et aujourd'hui encore, les gens veulent savoir quels sont les dessous des cartes du contrat qui a été signé, le contrat du gouvernement congolais et la partie chinoise. Il faudra que la société civile, le Parlement, toutes les forces vives de la nation sachent comment les travaux sont en train de se réaliser, et quel est le résultat de cette coopération gagnant-gagnant pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc, en fait, je crois que la garantie relève bien de la manière dont les deux partenaires vont se conduire tout au long de la réalisation de ces chantiers.
Dantero Toukani, on a parlé de la Chine, il y a la Grande-Bretagne qui s'est invitée et l'Inde aussi s'est dit prête à accompagner, n'est-ce pas, la RDC dans la réalisation de ces 5 chantiers. Comment vous réagissez par rapport à cette venue massive?
Vous savez, le Congo, c'est quand même une belle fille, hein. Vous le savez, on peut la comparer à une très belle fille. Nous sommes potentiellement riches. Et tous ces gens qui viennent, ils ne viennent pas pour le jus du Congolais, hein. Ils viennent parce que ils ont leur intérêt. Les Chinois, les Indiens, pour ne parler que de ceux-là, parce que bon, la Grande-Bretagne a déjà participé, je crois, depuis très longtemps dans certaines régions chez nous. Mais les Chinois et les Indiens viennent pour la première fois. Moi, je crois qu'on doit essayer encore cette coopération avec nos amis de l'Asie. C'est pour cela que mon ami, le journal de Paris Polydor, a qualifié le retour des dragons, l'arrivée des dragons. Mais pour le moment, dans le monde, ce sont eux qui tiennent les dragons hautes sur le plan financier, sur le plan économique, l'Inde et la Chine. Mon problème, c'est simplement tous ceux qui veulent venir nous aider pour habiter ce pays parce que nous en avons besoin. C'est bon, le bienvenu, mais il faudrait qu'au niveau du Parlement, au niveau du peuple, on voit clair dans tous ces contrats.
Il y a aussi le problème de la transparence, du type de contrat que le pays...
Par exemple, les noms parlementaires, par exemple, ils doivent voir clair dans tout cela. Tous les contrats doivent passer par le Parlement. Ils doivent être agréés par le Parlement. Moi, je crois que c'est ainsi que le peuple pourrait être suffisamment au courant de ce qui s'est passé. Que le gouvernement a un service de contrôle, si je ne me trompe, que ce service fasse son travail. Les Chinois, je sais qu'ils ont déjà fait des œuvres ici, mais sur la route qui s'est matinée, le gouvernement de travail n'a pas été fait comme il se doit. Mmh. Et je crois que sur cette route-là, de Kassoumanessa, on fera vraiment appel à l'intégrité. Ils sont nombreux au niveau de la Chine, hein. Je ne connais pas la compagnie qui va faire le travail, mais je sais que quand nos amis chinois veulent faire un travail, et surtout qu'ils sont en train, en quelque sorte, de faire aussi leur propagande dans le pays du tiers-monde, je crois qu'ils vont très bien faire ce travail-là, parce que il y a d'autres travaux qui peuvent être pour eux, hein. Donc, à condition que ce travail, ils les fassent très très bien, et que tout le monde soit content.
Francis Kalunga, vous êtes en ligne, on est signal par la technique, vous nous entendez? Il n'est toujours pas avec nous. Je vous passe la parole, vous voulez réagir, Luc Rosenbala?
Peut-être compléter ce que mon ami Don Piero a dit, hein. La transparence et également la bonne gouvernance, parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, si vraiment ces principes sont respectés, c'est-à-dire que dans la réalisation des cinq chantiers de la République, si on arrive à respecter scrupuleusement tous les principes, c'est-à-dire la transparence, la bonne gouvernance et la libre circulation des informations entre différents partenaires, je crois qu'on finira bien par créer même des richesses. Parce que le lancement des cinq chantiers rime inexorablement avec la création des emplois. Ouais. Donc on va créer des emplois pour les nationaux, on va créer des richesses et cela sera peut-être le point de départ du développement économique du pays. Donc là c'est un élément très important et quand on me dit que le chef de l'État est là pour donner le coup d'envoi, il y a lieu de donner une certaine garantie. Et là, le président de la République, en descendant sur le terrain, sait bien qu'il joue bien sa carte, parce que quand il est là à la fin, au décompte final, on cherchera à savoir comment les choses se sont réalisées. Est-ce qu'on a réussi à bien réaliser ce chef de la République? Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu de faille? Donc, c'est une entreprise gigantesque qui se déclenche.
Ok, une entreprise gigantesque, dont Pierrot.
Le port en eau profonde à Banana. Tout le monde s'attendait que ça pourrait être retenu parmi les priorités dans le jeune chef de l'État. Vous savez que nous avons une sérieuse concurrence entre le port de Pointe-Noire, le port d'Angola, parce que notre port, le port que nous avons ici, le port de Beaumont et le port de Matadi, ne peuvent pas recevoir les gros navires. Ce qui fait que le cargaison destiné à notre pays et débarquer à Pointe-Noire et des petits bateaux prennent pour le ramener ici. Mais si nous avons notre propre port à nos profondes, nous pouvons recevoir de grands bateaux et nous pouvons recevoir pas mal de choses. Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est qu'au niveau de Pointe-Noire, il y a beaucoup de marchandises qui sont débarquées là-bas, qui attendent pour être ramenées sur Matadi ou vers Beaumont. Donc ça prend du temps. Si on pouvait réhabiliter les routes, je veux le faire, c'est une difficulté pour le parcours parmi les chantiers, mais le port en eau profonde serait quelque chose, d'ailleurs, c'est capital même pour notre pays, est-ce que nous allons être un peu indépendants de ce côté-là?
Le projet Mbala a placé un monde,
et il est un fait qu'il y a déjà des projets gigantesques qui ont été lancés à l'époque, et qui devait être déclenché. Il y a le port en eau profonde de Banana, qui est déjà un vieux projet, et qui nécessite d'être réalisé, comme a dit Don Piero, face à la concurrence qui représente le port de Lobito en Angola et le port de Pointe-Noire, et même celui de Port-Gentil. Donc nous devons être compétitifs sur le plan du commerce maritime. Mais il y a également la zone Franche-Linga, qui était, c'est à Tianjin, en Chine, où j'ai vu des ingénieurs chinois déjà réfléchir sur la relance du projet de la zone Franche-Linga, qui consiste à créer des entreprises lourdes avec la troisième phase de Inga, avec la réhabilitation de la phase 3 d'Inga 3. Et ce gigantesque projet est déjà à l'ordre, est déjà à l'étude dans certains pays comme en Chine ou au Japon, ça, j'ai le vu. Mais ça m'étonne quand même que ce sont des projets qui sont relégués au second plan. Je suis d'accord, la route de Kasumbalé, ça c'est aussi un tronçon important. Merci. Il ne faut pas le négliger parce que j'ai parlé du corridor Est, qui est quand même un couloir important qui débouche sur Mombasa et même le port à Cape Town. Donc ce sont des projets prioritaires auxquels il faut relancer. Il ne faut pas sous-estimer tout en lançant la route, disons, la réhabilitation de la route à l'Est. Il faut songer également à rééquilibrer parce que c'est vrai quand même les inquiétudes exprimées par certains députés. Vous savez, ils sont sur le terrain, ils sont en contact avec la population. Il faut en tenir compte.
Merci, c'est avec votre analyse que nous passons au deuxième sujet de notre tribune de la presse. Le salaire minimum interprofessionnel garanti du travailleur congolais passe de 1 à 3 dollars américains par jour. C'est le fruit des concertations entre le ministère du Travail et Prévoyance sociale, le patronat et le syndicat des travailleurs lors de la tenue de la troisième session extraordinaire du Conseil national du travail qui s'est tenue le mardi dernier à Kinshasa. Le patronat congolais, quant à lui, proteste cependant contre la procédure d'adoption du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, fixé à 3 dollars américains par jour. Et selon le syndicat des employeurs, ce montant a été fixé d'une manière unilatérale par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La COPEMECO, la FEC et la FENAPEC pensent que l'application de ce SMIG étouffera certaines entreprises. Jocelyne Moussaopondé.
Dans une lettre du 4 avril dernier, adressée à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, la COPEMECO, la FEC et la FENAPEC ont fait savoir que les employeurs avaient, dès le début des travaux du Conseil national du travail, exprimé leurs inquiétudes sur le non-respect par le dit ministère des procédures prévues par la loi sur les modalités de réajustement du SMIG. Les syndicats des employeurs estiment que plusieurs entreprises privées éprouveront d'énormes difficultés pour surmonter une augmentation des charges salariales qui va occasionner ces réajustements du SMIG, notamment les entreprises du secteur agricole, pastoral, agro-industriel, industriel et surtout les petites et moyennes entreprises. Selon eux, l'application de ces SMIG pourrait aussi conduire à la fermeture de certaines entreprises, ce qui entraînera la suppression de plusieurs emplois et aussi le développement du secteur informel. C'est pour cela que les syndicats des employeurs privés proposent un SMIG de 1400 francs congolais par jour, payable en deux tranches, soit en juillet 2008 et en janvier 2009.
Selon le secrétaire général du travail, Boniface Bola, rien n'a été imposé au patronat congolais. La procédure a été respectée. Selon lui, il y a eu des concertations préalables et le consensus a été trouvé pour réajuster le SMIG. Nos partenaires doivent donc être sincères, dit-il. Boniface Bola est au micro de Jeff Ngoy.
Toutes les décisions se prennent par consensus. Une semaine avant la tenue de cette session extraordinaire du Conseil national du travail, Madame la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait reçu tous nos partenaires, en commençant par l'intersyndical du Congo. Le bas employeur a été reçu, entendez, FENAPEC, COPEMECO, ANEP, enfin la FEC, autour des questions qui constituent l'ordre du jour. C'était le réajustement du SMIG. Ils étaient mis au parfum de tout ce qui devait se dire au sujet du SMIG au niveau de la session extraordinaire. Dire que la procédure n'a pas été respectée. Et alors, qui a fait la proposition de 0,65 dollars pour remonter jusqu'à 2,5? Est-ce que c'était par force, par obligation ou c'était par concertation? Nos partenaires doivent être sincères.
Don Pierrot Toukani, après la troisième session extraordinaire du Conseil national du travail, le SMIG passe de 1 à 3 dollars américains par jour. Comment vous analysez cette décision de ce forum?
J'ai toujours dit que le travail congolais est le moins payé du monde. 3 dollars par jour, c'est encore rien. Heureusement qu'il y a eu certains gouverneurs de province qui ont déjà pris la cette décision. Je crois à Matadi, par exemple, le gouverneur Simon Bachibati avait déjà décidé, avait déjà réuni nos amis libanais, secrétaires du combat ici, qui doivent payer au moins 100 dollars par mois à un travailleur. Je crois qu'au Katanga, moi, je serais bien fait la même chose. Bon, j'ai bien suivi tout ce qui s'est dit là-bas, mais je ne comprends pas comment est-ce que les opérateurs économiques hésitent à donner 30 dollars à leurs compatriotes pour tout le travail qu'ils font pour eux. Là, nous devons savoir quel bénéfice ils ont ces gens. Moi, je crois qu'ils ont un bénéfice parmi eux, ces gens-là. Et payer 3 dollars par jour, ils discutent de ça. 3 dollars par jour, ça fera à peu près 3 dollars par mois, même pas 100 dollars par mois. Moi, je crois que les travailleurs congolais méritent mieux que ça. À toi, ça, c'est mon point de vue.
Luc Rosembala, votre réaction?
Bon, je dirais que c'est toujours l'éternel débat, discussion entre dans la tripartite du monde du travail, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Mais en fait, comme a dit Don Piero, 3 dollars, c'est pratiquement insignifiant par rapport au problème que rencontrent les travailleurs. Mais ce qui me frustre un peu, le comportement des opérateurs économiques qui ont tendance toujours à se dire que si on essaie de majorer, nous risquons de faire banqueroute, on va fermer nos entreprises, les entreprises vont tomber en faillite. Mais il faut que nos entrepreneurs, il faut que les opérateurs économiques apprennent à être compétitifs sur le marché tant national qu'international. Parce que chaque fois quand on essaie de bouger, ils expriment toujours une position un peu de faiblesse pour dire que non, si on prend telle décision, nous allons fermer nos entreprises, tout ça. Non, il faut voir toujours de l'avant. Moi, je crois, ce qui fait la force des grandes entreprises comme Microsoft et d'autres, Boeing, c'est justement la volonté de leur patron, la volonté des opérateurs qui sont à leur tête, d'aller de l'avant, d'affronter les épreuves économiques. Et nous, les opérateurs économiques, doivent être à même de le faire. Toujours pas de se retrancher derrière des arguments tels que nous risquons de faire banqueroute. Ça ne tient pas debout.
Oui, parce que les représentants de la FEC estiment que beaucoup d'entreprises seront contraintes à la réduction des effectifs, sinon à la fermeture des entreprises. Même s'ils veulent continuer à travailler, elles sont obligées d'évoluer dans l'informel et celles qui utilisent les travailleurs contractuels vont, pour des raisons économiques, les mettre au chômage ou les utiliser comme temporaires. Les calculs faits par les membres de la FEC, avec l'application de 3$ de SMIC par jour, un manœuvre, par exemple, aura 147$ par mois, y compris les indemnités de logement et de transport. Actuellement, est-ce que les entreprises sont à mesure de payer aux manœuvres 147$ par mois?
Les entreprises peuvent réaliser cette performance, c'est-à-dire d'améliorer tant soit peu la situation salariale des leurs travailleurs, mais à une seule condition, il faut que le pouvoir public, il faut que le gouvernement leur accorde certaines facilités. Moins de tracasseries, par exemple, au niveau des douanes, moins de tracasseries quand ils importent leurs produits, qu'ils aient la facilité, comme on le voit ailleurs. Il faut encourager, il faut assainir l'environnement macroéconomique. Le problème, c'est quoi? Pourquoi nos entreprises sont butées à des problèmes? Tout simplement parce que, au niveau même de leur fonctionnement, ils rencontrent tellement de problèmes. Il faut encourager les gens qui créent des emplois à aller de l'avant, à faire mieux leur travail. Et le gouvernement, le pouvoir public doivent y contribuer. J'étais heureux de voir madame la ministre du Travail à côté du ministre de l'Intérieur qui a sa charge justement la sécurité des biens et des personnes. Oui, exactement. Ça demande un effort de tout un chacun. Il faut assainir le milieu macroéconomique, il faut assainir l'environnement au niveau des services de sécurité, au niveau de la douane, pour que les opérateurs économiques aient moins de problèmes dans l'exercice de leurs activités.
Donc, Pierrot, vous avez suivi. Quelle analyse vous faites? Parce que vous venez de dire que là-bas, dans le Bas-Congo, le gouverneur de province a pris des initiatives dans ce sens. Comment ça se passe chez vous?
Oui, il y a un peu longtemps de cela, je crois que c'était l'année passée, le gouverneur avait réuni les Libanais, les Libyens qui commencent ici, et il avait demandé à ce qu'ils payent au moins 100$ par personne, donc le plus bas serait que ce soit. Alors, je reviens par rapport à ce que mon ami Roger Mendipi là, il faudrait aussi que les gouvernements puissent motiver les opérateurs économiques.
Comment
on l'a fait? Bientôt, Parlement doit discuter du tarif douanier, je crois, qui doit être revu à la baisse. On doit aussi voir toutes les autres taxes pour permettre aux opérateurs de prendre escale après lui, par exemple, le périph' de fermer. Ils ont peut-être des raisons, ils ont peut-être des torts, mais il faudrait que le gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires pour permettre aux opérateurs économiques qui n'y aient plus cet argument-là. Qu'on puisse assainir le milieu économique, là il y a un travail à faire. Et aussi, nos amis opérateurs économiques, je suis ici au port de Matadi, je ne sais pas ce qui se passe, le gouvernement a mis le contrôle du VAC, ça cause des sérieux problèmes. Les opérateurs économiques préfèrent importer leurs marchandises sans que l'État puisse trop regarder la fraude, se porte très bien, plutôt la fraude documentaire. Donc il faudrait que le gouvernement voie tout cela, pour empêcher, par des mesures qui peuvent prendre, pour empêcher à ce que le président économique se penche plus sur une mauvaise fraude et qu'il fasse un travail très sérieusement. Le salaire minimum peut être facilement garanti et peut être payé facilement si les opérateurs économiques font des bénéfices prospères, là, je crois que c'est là le problème, parce que on fait les affaires pas pour le beau yeux de ces secteurs, mais les opérateurs économiques font les affaires pour faire des bénéfices. Et pour faire quel bénéfice?
Quand le SMIC était à 1 dollar par jour, 1 dollar américain, est-ce qu'il était appliqué? Et cette fois-ci, le fait de tripler le SMIC, on peut espérer à une application effective?
Alors, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour le contrôler tout cela. Il faudrait que c'est le gouvernement qui a décidé, c'est une décision du gouvernement. Il faudrait que le mécanisme soit mis en place maintenant pour suivre cela.
Ok. Luc Roger, tu as ajouté, mais avant que je ne te passe la parole, je rappelle que nous devrions en principe avoir Francis Kalonga, journaliste de la radio communautaire d'Ikoudiétou, émettant à Kananga au Kasaï occidental, mais malheureusement, sa ligne est coupée. Je reviens à vous, Luc Roger Mbala. En dehors du SMIG, la troisième session extraordinaire du Conseil national du travail a également parlé du travail réservé aux étrangers, parce que actuellement, en République démocratique du Congo, les étrangers, certains se livrent à des métiers qui sont réservés spécifiquement aux compatriotes, aux enfants du pays, et c'est aussi un vrai problème.
Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec les participants au Conseil national du travail. C'est vrai qu'il y a des travaux, il y a des métiers qui sont réservés exclusivement aux nationaux. Par exemple, au niveau des ventes de détail, moi je suis parfois étonné de voir les opérateurs économiques étrangers se livrent des ventes, par exemple, au détail. Ce sont des travaux strictement réservés aux nationaux, parce que si vous étouffez les nationaux à faire leur travail, bon, ils sont condamnés au chômage et ça n'avance pas.
Est-ce que depuis très longtemps, cette situation n'a jamais été réglementée?
Cette situation, et ça, Guy Roger, je suis d'accord avec vous quand vous avez dit, quand vous vous êtes posé la question de savoir si tout cela sera respecté. Parce que moi, je l'ai dit d'ailleurs au début de l'émission, mon inquiétude dans ce pays a toujours été les effets d'annonce. On annonce une décision avec beaucoup de pompe, avec une forte médiatisation, mais à la longue, on ne l'applique pas. Ces mesures ont été prises il y a une longue période. Moi, je me rappelle à ce moment, on interdisait aux étrangers de faire des métiers, par exemple, la vente, par exemple, des brochettes sur le marché. Il faut réserver aux opérateurs, il faut réserver aux Congolais.
C'est visible ici à Kinshasa.
C'est visible, oui. On peut, sur Victoire, on peut y multiplier des exemples. Le pouvoir public prend des décisions, mais malheureusement, quelques années après, on ne l'applique plus. J'espère que les assises du Conseil national du travail sera le point de départ de la mise en application de toutes les mesures qui seront prises. Et là, j'espère vraiment que tout sera mis en marche pour que toutes les résolutions qui ont été prises soient respectées, soient appliquées sur le terrain.
Donc, Pierrot Toukani, un mot sur les travaux réservés aux étrangers?
Oui, le pays du commerce, par exemple. Moi, je vois très mal quelqu'un qui était de chez lui, c'était de quel pays, pour venir revendre, faire la concurrence aux Congolais. Ça, on le voit souvent. Et dans le domaine même de déclarant en douane. Vous savez parler que les gens que je vois ici au port de Matadi.
Oui.
Il y a des étrangers qui sont restés dans cette affaire-là. Ça peut être réservé qu'aux seuls Congolais. Et il y a aussi certaines sociétés, des grandes sociétés, surtout des Libanais, qui s'arrangent pour créer des agences en douane et faire concurrence avec les autres Congolais. Il y a certains travaux. Moi j'ai appris qu'en Angola, par exemple, un pays voisin, ce n'est pas n'importe qui fait le petit commerce. C'est réservé aux Angolais. Moi, je crois qu'il faut que le gouvernement puisse vraiment, alors, cette fois-là, appliquer ces mesures. Parce que ces mesures ont été prises il y a longtemps de cela. Mais comme on dit, nos amis libanais ont de gros, de bras trop longs, ils passent parfois dans le mail, entre le mail, pardon. Et on ne respecte rien de ce côté-là. Il faudrait que le gouvernement fasse attention. Il y a une inspection de travail, je crois. Il y a des gars de fougou de topris depuis très longtemps. On les applique maintenant.
Le Crozimbala, il faut sanctionner, c'est que pour les récalcitrants. Il a parlé de l'Angola. Les acteurs politiques ont été au dialogue intercongolais, les premières négociations politiques en Éthiopie. Nous étions avec les acteurs politiques. On a échangé avec les Éthiopiens. En Éthiopie, vous ne pouvez pas faire du petit commerce si vous êtes étranger. Et même si vous êtes dans des grands commerces ou dans une grande entreprise, vous devez nécessairement embaucher 70% d'Éthiopiens. Voilà une politique qui est d'application depuis l'époque de l'ancien président Mengistu, Haïlé Mariam. Donc en fait, ce sont le respect des textes et le respect des textes qui sont élaborés par les autorités. C'est ce qui manque au Congo. On fait des très beaux textes, on adopte des très bonnes résolutions, mais c'est au niveau de l'application que cela pose problème. Et ça, je crois, comme je l'ai dit, le Conseil national, les assises du Conseil national du travail doit être le point de départ. Parce qu'une année ou deux années après, la population va demander à Mme Loukiana, ils vont demander au ministre Kaloumé, qu'est-ce que vous en avez fait de toutes les résolutions que nous avions adoptées ensemble. Ça, c'est quelque chose de très important.
Merci, Luc Roger Mbala. Ouverture le mercredi dernier en Banzangongo, à plus de 215 km de Matadi, du procès des adeptes de Bundidia Congo arrêtés lors de l'opération Bondeko, qui consistait à rétablir l'autorité de l'État dans la province du Bas-Congo. Au total, 22 prévenus ont été identifiés sur base des dossiers du parquet de Banzangongo. Avant l'instruction, les collectifs des avocats de la défense, composés des avocats venus de Kinshasa, Matadi, Banzangongo, a demandé un report de 2 semaines pour mieux pénétrer le dossier, mais se fondant sur la loi, le tribunal leur a accordé 48 heures. Le procès a repris ce vendredi 11 avril 2008. Toujours dans ce même chapitre, la commission d'enquête mise sur pied par l'Assemblée provinciale dit n'avoir découvert aucun corps à Lunga, Vassa et à Manterme, village situé à plus de 100 km de Matadi. D'autre part, cette commission demande la suspension des autorités politico-administratives de la ville de Bouma et de Manterne pour n'avoir pas sécurisé le site. Vicky Odia.
Le rapport présenté à la plénière de l'Assemblée provinciale de mercredi par la commission d'enquête chargée de vérifier l'existence ou non de fosses communes entre les villages Lugavassa et Manterne ne confirme ni n'infirme l'existence de fosses communes. En effet, d'après l'honorable Pape Mapangu, le président de la dite commission, son équipe est descendue sur le terrain la première fois ensemble accompagnée du procureur de la République de Bouma. Arrivé sur les lieux, ce dernier a fait photographier l'endroit et a placé quelques indices tout en priant l'autorité administrative de Bouma et Mantan de sécuriser les sites. Curieusement, lorsque la commission et le procureur de la République de Bouma sont redescendus sur le terrain le lendemain, poursuit la même source, avant l'opération de fouilles, ils ont constaté que les sites avaient changé de configuration. Après avoir fouillé le lieu, aucun corps n'a été trouvé dans les trous, à part de braises sèches et l'odeur nauséabonde. Toujours d'après le président de la commission, l'équipe de la Croix-Rouge qui a creusé a découvert quelques cache-nez et une membrane humaine conservée par le docteur Mabiala comme une peau de plante humaine. Dans ses recommandations, la commission parlementaire a demandé que les autorités politico-administratives de la ville de Bouma et Mantane soient suspendues pour besoin d'enquête. Pour avoir refusé de sécuriser les sites, pour éviter sa violation, ces autorités et renchérir la commission doivent être traduites en justice par le gouvernement provincial du Bas-Congo. La commission dit attendre les rapports du procureur de la République de Bouma et du médecin légiste pour compléter les dossiers. Dossier à suivre. Matadi, Victor de Radio Okapi.
Toujours en rapport avec cette affaire Bundidia Congo, le député national Lemwanda Seni, leader de ce mouvement, a annoncé dimanche dernier, au cours d'une conférence de presse, qu'il va saisir la Cour pénale internationale pour contrer tous ceux qui ont perpétré les massacres de la population civile dans le Bas-Congo. Il s'est attaqué directement au gouvernement, donc il a dit porter plainte contre le gouvernement à la Cour pénale internationale. Il a également évoqué la question des fosses communes. Don Piero Toukani, je rappelle que vous êtes correspondant de Raga FM dans le Bas-Congo. Quelle analyse autour de l'existence ou non des fosses communes dans cette partie de la RDC?
Oui, ce problème de fosses communes, quelqu'un est venu me voir pour m'en parler. On avait découvert des fosses communes, mais après l'investigation, il n'y avait rien dedans. Mais comme au niveau du Parlement provincial, on avait mené une enquête, moi, je crois que cette enquête-là, des honorables de députés provinciaux, doit être pris au niveau très sérieux. Pourquoi les autorités des matières n'ont pas sécurisé ce site-là? Alors qu'ils savaient qu'on avait découvert certaines choses. Vous savez, dans cette affaire de Bundidia Congo, il y a en tout cas beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, malheureusement. Et je crois que ça ne fait que commencer, hein. Ces procès, tout ce qu'on est en train de dire, ça ne fait que commencer. S'il faut aller très loin, Il faut qu'on puisse donner le temps au temps et creuser sérieusement cette affaire pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a eu finalement.
Merci, Don Pierrot. Luc Roger, l'existence ou non des fosses communes, comment vous interprétez?
Guy Roger, vous savez, cette affaire de Boudjou Diakongo a ressuscité beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de choses autour de ce que... Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est la manière un peu cavalière des autorités d'ouvrir ces procès du coup. Vous avez entendu la partie de la défense qui a demandé qu'on pénètre un peu le dossier, parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans cette question. Massacre, tuerie, fausse commune, il y a beaucoup de choses qui sont toutes dites. Moi, j'aurais voulu, sincèrement, que toutes les commissions d'enquête qui ont été menées, parce que la MONUC a également dépêché une équipe d'experts sur place, le gouvernement a envoyé une équipe sur place. Il y a une commission parlementaire sur place. Moi, j'aurais voulu que toutes ces commissions se mettent ensemble sur une même table pour voir quels sont les dessous des cartes de cette affaire. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur cette question au point où on ne sait plus à qui vraiment croire. C'est vrai, les organisations humanitaires ont parlé des corps qui sont retrouvés sur le fleuve Congo au niveau de, en amont de Luozi, en aval, pardon, de Luozi. Ce sont des investigations qu'il faut mener. Quand on ouvre le procès directement comme ça, moi je me demande pourquoi, est-ce que c'est pas une volonté délibérée d'effacer certaines traces. Il faut que toutes les commissions puissent publier leur rapport. Et moi, je suis un peu curieux de voir que la mission onusienne qui est sur place n'est pas encore publié son rapport. On attend également cette commission-là. C'est au niveau justement de cette commission d'enquête que nous pourrons savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le terrain et quel est le bilan exact des personnes qui ont perdu la vie au cours de ces événements de tous ces mémoires.
Donc, Pierrot Toukani, vous pensez-vous, comme Luc Roger Mbala, qu'il ne faudrait pas aller vite en besogne avec l'ouverture de procès? Il faudrait réunir tous les éléments, comme le pense Luc Roger, pour finalement commencer et débuter un procès autour des événements du Bas-Congo?
Je suis parfaitement d'accord avec Luc, parce que vous avez, et je viens de dire à mon introduction, le dossier Bas-Congo, c'est un dossier à mille facettes. Ouais, je crois qu'il faut prendre le temps pour pénétrer tout ça. Luc a parlé des problèmes, de toutes les commissions qui sont passées par ici. Nous en avons vu des commissions parlementaires et tout et tout. Et maintenant, je ne sais pas. Ils ont arrêté de se faire des Bundiakongo aux acquis de quoi exactement? Moi, je crois que s'il faut vraiment cerner les problèmes de Bundiakongo, il faut avoir tous les rapports de toutes ces commissions qui se passent sur ce problème. Ça date depuis après longtemps, hein, le problème de Bundiakongo. Il y a beaucoup de morts autour de cette affaire. Et moi, j'ai toujours souhaité qu'on en finisse une fois pour toutes et qu'on ne se précipite pas pour faire des procès, je ne sais pas moi, peut-être pour une certaine opinion. Mais si on veut faire les choses sérieusement, qu'on mène des enquêtes d'une façon sérieuse et qu'on puisse déterminer, même au niveau de l'inscription des jeunes du dossier, qu'on puisse déterminer qui a fait quoi et qui a fait quoi. C'est très important.
Donc, Pierrot, vous ne pensez pas qu'avec les problèmes des fosses communes, il y a également la volonté de Nemo Ndassemi, la menace même de Nemo Ndassemi de porter plainte contre les gouvernements au niveau de la Cour pénale internationale peut justement retarder ou bloquer l'application des recommandations de l'Assemblée nationale par rapport à la question du Bas-Congo?
Moi, je crois que les recommandations du Parlement, ces recommandations-là, doivent être faites. C'est très important. Et moi, je ne pense pas que même si mon antenne est allée au niveau du tribunal international, que cela va handicaper ce que le gouvernement provincial, le gouvernement plutôt, le Parlement, le gouvernement doit faire. C'est extrêmement important. Vous savez, le problème de la table ronde, le problème de la caravane de paix,
oui.
Où moi je voudrais vraiment retrouver tous les leaders congo dedans. Les Mwanantemi, les Sulubangi, les Bwemba, tous ceux qui ont un mot à dire sur le Bakongo, ceux qui ont une opinion sur le Bakongo, nous avons besoin de ça. Cette caravane de paix, cette table ronde de paix, les protestes c'est bien pour là. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse faciliter les esprits de Bakongo et amener le peuple à reconstruire la province.
Luc Rosenbala, vous pensez, vous, d'une part, il y a les commissions d'enquête qui poursuivent leur travail, il y a également Nemwanda Seni qui porte plainte contre le gouvernement à la CPI, et de d'autre part, l'application des recommandations de l'Assemblée nationale avec l'organisation de la caravane de paix, et puis la table ronde, tout peut aller... parallèlement,
moi je crois que les uns et les autres doivent respecter les résolutions qui ont été prises au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faut initier cette caravane de paix. Il ne faut plus. Enfin, pourquoi doit-on ouvrir encore un nouveau front, aller tout créer encore de frustrations quand il y a encore de sérieux problèmes qui se posent parce que au-delà des gens qu'on juge. Il y a également des militaires qui ont commis des exactions à l'encontre de la population civile, qui doivent être jugés. On n'en parle pas. Donc il faut initier tout. J'ai reçu un courrier aujourd'hui, avant de quitter la rédaction, de la population de Kazangoul, qui se plaint des exactions commises par les militaires qui sont rentrés de Louz et qui sont stationnés en Bandangou et qui dérangent la population. Ça, ce sont des problèmes, des fonds qu'il faut discuter ensemble au niveau du Parlement, au niveau des acteurs politiques de la province qui ont été élus, qui brillent par un silence incroyable également, parce que là, la population le dit, mais nous avons élu des gens là-bas. Pourquoi ils brillent par leur silence?
Mais on les a vus à l'Assemblée.
On les a vus à l'Assemblée. Il ne faut pas seulement parler. Moi, j'ai parlé à un responsable, un acteur politique qui a été élu sur place. On lui dit, qu'est-ce que vous pensez des choses? Il dit, non, moi, je suis en vacances parlementaires. Quand il y a des choses, c'est ahurissant. Donc, en fait, il faut que le gouvernement, le Parlement et même le chef spirituel des Bundia Congo suivent le calibre de la paix. Il faut finir cette caravane pour que le Bas-Congo, quand même, retrouve sa stabilité. Moi, je suis étonné, cette province n'a jamais connu des épreuves telles qu'elle subit depuis. Donc, nous devons faire de sorte que la paix revienne. Il y a également la responsabilité de la mission des Nations Unies au Congo.
Laquelle
cette responsabilité, moi, le rôle un peu ambigu de la MONUC depuis les événements du Bas-Congo, qui devait au départ envoyer une mission. Et puis qui a hésité, et quelques temps après, il s'est ressaisi. Il faut que cette commission qui est sur place puisse également influer sur base des éléments qu'il aura recueillis sur place. Et j'ai confiance, je sais que la MONUC, qui s'acquitte toujours bien de sa tâche, va également jouer un rôle déterminant pour que la paix et la sécurité reviennent quand même dans la province du Bas-Congo.
Donc, Pierrot Toukani.
Oui, moi je suis pour la réconciliation. Bon, pas encore, j'ai tué le feu. Il y aura toujours des frustrations quelque part. Mais pourquoi ne pas commencer par appliquer les résolutions, par exemple, du Parlement? Parce que la fois, nous avons discuté, nous sommes tous d'accord qu'à droite ou pas là, le président Caméré a démené les affaires, il n'y a eu ni perdant ni gagnant. C'est la puissance là qui font les affaires là. Les Bas-Congo, peut-être que les gens ne les comprennent pas. Cette affaire de Bundia-Congo risque d'amener cette province trop loin, négativement, bien sûr. Le gouvernement de Prosper, par exemple, au mois, l'année passée, vers le mois de juin, juillet, je crois, il avait présenté son plan d'action pour la province. Un plan ambitieux. Les pauvres ne peuvent rien faire avec tout ce qu'il y a comme bruit, comme insécurité. Qu'est-ce qu'il peut faire? La province, je suis intervenu, j'avais dit que pendant tout ce temps qu'il fallait amener des agents à l'osier partout à travers le pays, l'argent qui devait servir
au
développement de la province était bloqué pour autre chose.
Concluez, parce qu'on tend vers la fin de l'émission.
Ma conclusion est qu'on puisse pouvoir, pour que la paix revienne dans cette contrainte, dans la province de Bas-Congo, et qu'on puisse organiser la table ronde, la caravane de paix, pour que tout le monde puisse se retrouver quoi, de la paix.
Merci, c'est avec vous que nous mettons fin à cette tribune de la presse. Nous avons eu comme invité Don Pierrot Toukani, correspondant de Raga FM dans le Bas-Congo, Luc Rosenbala, directeur de rédaction du journal L'Observateur, qui paraît à Kinshasa. En principe, on devait également avoir Francis Kalonga, journaliste de Radio Dikoudjetou, mais on a perdu sa ligne. Merci Anselme Sissi Mumbere, qui était à la réalisation, sans oublier Eric Sidiakala, qui était à la technique. Bonne suite de programme sur Radio Capitole.